Bonjour à tous et à toutes. Bonjour dans ce mercredi 5 mars. C'est déjà le printemps. Je crois qu'il va faire 20 degrés cet après-midi sur la place de la Comédie. C'est vrai que nous n'avons plus nos matinales habituelles, donc nous ne savons pas quelle température il va faire. Donc voilà, je vous donne une idée. C'est le grand entretien de la matinale. C'est Léonie qui nous accompagne aujourd'hui à la tech. Et j'ai le plaisir d'être en compagnie de Florian Mancione. Bonjour Florian.
Bonjour Nathalie.
Plein de choses à se raconter ce matin.
Volontiers.
Alors déjà, peut-être pour les auditeurs qui ne vous connaîtraient pas, même si vous avez votre nom en grandes lettres sur les échelles de la ville, vous êtes consultant en recrutement et en management, vous êtes surtout fondateur du Florian Mancione Institute depuis 1976, et évidemment votre expertise est reconnue en ressources humaines, et votre vision innovante du recrutement est vraiment particulière, on peut en parler, notamment en préparant l'émission, on parlait de ce fameux livre sur le management épiphyte qui m'a fait grandir et m'a appris plein de choses, même si j'étais plus dans le milieu du travail, Florian. Vous êtes auteur donc de nombreux ouvrages, une trentaine, pas loin
35.
Là, 35, voilà. Et vous accompagnez depuis des décennies les entreprises et les candidats dans leur stratégie RH, même si aujourd'hui vous avez quand même un petit peu passé le relais.
Totalement passé le relais
à
mes deux jambes en fait, hein, Augustin Valero et Loïc Luyère en fait, hein, qui gèrent le cabinet.
C'est le moment de faire un petit clin d'œil à la fille d'Augustin qui était venue partager de matinée aussi avec moi ici, Carla,
voilà. La petite fille. Oui.
Une petite fille adorable et très 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 gentille qui se lançait aussi elle dans une drôle d'aventure qui était une Miss Roussillon ou une Miss Languedoc.
Exactement, dans le cadre de ses études de communication, elle a trouvé pertinent d'avoir une expérience dans le domaine de l'élection en fait, hein, de Miss.
Voilà, et puis de se battre aussi pour exister, c'était une très très jolie rencontre. Florian, on va d'abord parler d'un livre qui vient de sortir qui s'appelle « Le management selon les animaux » aux éditions Athéna. Je le découvre ce matin parce qu'à cause de la vilaine pluie, je n'avais pu me rendre à vos vœux qui sont traditionnellement le dernier jour ou l'avant-dernier jour de janvier. Et qui en plus avait changé de lieu, qui était passé du dièse à la salle Bougnol, c'est l'ancien
L'ancien stade Bougnol.
Voilà, c'est ça. Et puis après, la musique que vous avez choisie pour nous, qui est l'hymne à la joie de Beethoven, on parlera de ce qui est en préparation pour les 50 ans du Florian Mancione Institute. C'est un concours artistique, mais on en parlera juste après Beethoven, voilà, puisqu'on avait vous avez choisi pour nous Beethoven. Mais parlons déjà du management selon les animaux. C'est le quatrième tome d'une collection. Alors maintenant, c'est une collection. Le premier, c'est le management selon Napoléon. Vous avez d'ailleurs reçu à Radio FM Plus pour ce livre. Après, le management selon Jésus, avec le frère Hervé Ponceau, que vous pouvez entendre encore. Son émission a été diffusée pour son dernier livre à Hervé Ponceau le 12 février. Et puis, le management selon les philosophes qui était paru chez notre ami Nombre 7, Christophe Landès. Et là, donc, c'est le management selon les animaux. Première question, Florian Mancione, est-ce que quand vous avez écrit le management selon Napoléon, vous saviez qu'il y en aurait d'autres derrière ?
Pas du tout. Moi, je suis passionné par le management et il a suffi d'une belle rencontre avec Alain Pijard. Alain Pijard était à l'époque le président du souvenir napoléonien que j'avais invité à Montpellier dans le cadre du cercle Montpellier-Cambacérès. Il nous a parlé de Napoléon et après la conférence, je lui ai dit « Mais Alain, finalement, Napoléon, il recrutait, il formait, il animait. Ce sont vraiment les caractéristiques d'un manager. Ça serait peut-être intéressant de faire un bouquin là-dessus. » « Ah, mais oui, c'est une bonne idée. » Alors, je dis « Moi, ce que je voudrais faire, c'est interviewer Napoléon à Sainte-Hélène. » Ah, oh, mais c'est une excellente idée. Je dis, mais je voudrais que ce soit vous qui soyez Napoléon.
Alors là, moi, je me rappelle.
Ah, là, ça lui a encore beaucoup plus. Et donc, il a accepté, on a fait ce livre. Et puis après, m'est venue l'idée d'interviewer Jésus lors de la scène. Et j'ai eu beaucoup de chance, puisque j'ai rencontré le frère Hervé Ponceau, qui est dominicain à Montpellier, qui est HEC, qui est docteur en théologie, et qui a dirigé l'école biblique de Jérusalem. Donc quand je lui posais des questions sur Jésus, il répondait vraiment comme si c'était Jésus qui répondait. Voilà.
C'est un bon recruteur, Jésus.
Forcément, il a recruté au moins 12 personnes, ça c'est clair, et l'entreprise a bien développé en fait. Hein.
Le fait comme ça d'avoir autour d'un sujet, je pense à Hervé Ponceau qui est vraiment extrêmement brillant, puis qui sur des idées simples, son dernier livre c'est ça, c'est une idée simple, et puis la vision biblique de la même idée. Bon, vous avez l'habitude de partager dans les entretiens Cambacérès, dans les cafés Cambacérès à la Gazette, des rencontres avec des gens très puissants sur les domaines qu'ils connaissent. Mais quand on s'attaque comme ça à Jésus, le fait d'avoir un frère avec vous, ça vous... Surtout que c'est assez... frontale tous les deux. Parce
on n'est pas toujours d'accord. Hein.
Voilà, voilà.
Hein. Et c'est la confrontation que connaissent les idées. Et on grandit grâce à soi, grâce à ça en fait. Hein. Donc, on a bien discuté. Et j'ai fait émerger l'idée que finalement, Jésus, ce n'était pas forcément un manager, mais c'est surtout un leader. Mm-hmm. Hein. Il a entraîné, il a convaincu, il a fait adhérer à ses idées. Et moi, ce qui m'intéresse dans Jésus, ce n'est pas tant l'homme, ce sont ses idées. Et 2000 ans après, ces idées sont intéressantes, y compris dans les entreprises, en fait.
Et il ne faut pas oublier qu'ici, nous sommes sur une radio protestante.
Et la suite de Jésus, ça a été le management selon les philosophes, où j'ai interviewé 42 philosophes avec la complicité de Pierre Vinault, mon ami Pierre Vinault. Et pareil, en fait, hein, on n'attend pas le philosophe être un manager. Mais dans les idées qu'ils ont détaillé, développé, ben, y a forcément des techniques à utiliser dans l'entreprise. C'est ce qui m'intéressait, en fait. Hein. C'est le rapprochement entre la vie et puis l'entreprise et le management.
À chaque fois, c'est une discussion avec Pierre Vinault.
Oui, 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 tout à fait.
Il y avait un philosophe qui, vous, pendant vos études, je ne sais plus, vos études, c'était déjà en France ou c'était encore en Tunisie?
Ah, c'est dans Montpellier. Montpellier et Toulouse, surtout. Et Paris aussi.
Il y avait vraiment un philosophe qui vous a... je ne sais pas, moi j'ai souvenir du mythe de la caverne de Platon, par exemple. Est-ce qu'il y a un philosophe qui vous a impressionné, qui vous a dit vraiment ce que...
Non, je ne me
suis
pas... Vous
aviez un esprit philosophique déjà, Florian Mancione ?
Je l'ai développé au fur des années, en fait. Hein, mais j'ai découvert la philo dans l'entreprise, en fait. C'est très amusant. J'étais un élève moyen en philosophie, mais par la suite, quand j'ai été confronté aux hommes et aux femmes, moi j'ai été séduit et je suis fasciné par le comportement humain. Mmh. Et c'est le comportement humain qui m'a fait m'intéresser, un, à la psycho et deux, à la philo.
C'est sûr que je parlais en ouverture de ce fameux livre, Le Management Épiphyte. Si vous pouviez nous dire en quelques mots, on a peu de temps hélas, parce que c'est un sujet qui pourrait prendre des heures, mais qu'est-ce que c'est la mentionne toute justement avec ce management épiphyte qui est de faire grandir. C'est vrai que pour moi, il y a le mauvais manager qui blinde et qui impose, et puis il y a le manager qui fait grandir, qui amène à l'autonomie, qui délègue tout en étant là, et c'est tout ça que vous prenez.
Voilà, j'aime bien prendre des images, et un peu comme Boris Cyrulnik, qui est parti du image la résilience, hein, qui est une loi physique, j'ai trouvé la différence entre la plante parasite et la plante épiphyte, quelque chose qui pouvait illustrer deux types de management, en fait. Hein. La plante parasite, elle, se développe sur un tronc en lui piquant la sève, alors que la plante épiphyte, elle, se développe sur un tronc sans lui piquer la sève, en fait, hein, pour l'embellir. Et je crois que le rôle d'un manager, c'est de servir de support, hein, de tuteur à une plante parasite et l'aider à grandir. Voilà, et toute ma théorie, tout mon concept du management épiphyte, c'est de dire le manager fait grandir ses collaborateurs.
Voilà. Aujourd'hui, vous pouvez avoir un regard sur vous. Déjà, est-ce que vos deux gendres qui ont repris l'Institut ont la même philosophie que vous là-dessus?
Exactement. Ouais. J'ai presque illustré ma relation avec mes deux gendres dans le domaine de l'entreprise, de manière générale. Hein. C'était une bonne illustration du management épiphyte.
Et quand on vous connaît hors de l'homme impressionnant, que vous pouvez maintenant, ça fait 6 ans, alors je suis un peu moins... que je vous connais, Florian, donc je suis un petit peu moins impressionnée qu'au début, mais tous ces gens que vous avez croisés pendant votre carrière, j'ai l'impression qu'ils continuent à les côtoyer, je pense à Thierry, je pense à Lefebvre, je pense à plein de gens comme ça qui sont autour de vous, et on sent que justement, à un moment, vous avez travaillé avec eux sur cette idée de management épiphyte, et que vous en avez gardé un cercle amical.
Toute relation que j'entretiens avec quelqu'un, il y a toujours une touche amicale, en fait. Hein. Et comme je suis très, très réseau, j'aime bien me prolonger. J'aime pas le court terme, en fait. Hein. Moi, ma relation avec les autres, elle est sur le moyen terme et sur le long terme, en fait. Hein. C'est ça, en fait. Hein.
C'est faire grandir. Enfin, moi, je sais que j'ai eu des managers qui m'ont fait grandir. Je leur ai dit. Et même maintenant qu'on ne travaille plus, moi, je ne suis plus dans le monde du travail, ce sont toujours des amis. Et je leur dis, il y a un moment dans ma vie où, oui, tu as été important. Est-ce que ça, c'est des choses que les gens vous ont dit, par exemple, à un moment, oui?
Oui, bien sûr. Ouais. Ils me le disent, ils me le répètent, en fait. Mmh, hein. Ça me fait plaisir, bien sûr. Hein. Mais eux m'ont apporté beaucoup de choses,
bien sûr,
en fait.
Hein.
Quand on donne, on reçoit. Hein. D'abord, il faut donner, après, on va recevoir.
Exactement. Ça, on l'oublie des fois. comment on passe alors des philosophes aux animaux.
Alors là, c'est grâce à un ami. Moi, j'adore les rencontres, en fait. Hein, et je rebondis beaucoup sur les rencontres. Et il y a un an et demi, deux ans, j'ai un ami qui s'appelle Jacques Dray, un ancien manager, un dirigeant d'un très bon niveau. On déjeunait au restaurant et on parlait management au hasard. Et puis, il me dit, Florian, tu vois, moi, je suis un manager qui s'adapte. Voilà. Ma caractéristique, c'est l'adaptation, en fait. Un peu comme, comment dirais-je, un manager caméléon. Tiens, voilà, tu vois, je suis un manager caméléon et il m'explique pourquoi c'est un manager caméléon. Je dis, c'est intéressant. Je rentre chez moi et j'ai écrit un article sur le manager caméléon. Voilà. Ça m'a bien amusé. Mais une fois que j'ai rédigé mon article sur le manager caméléon, je me suis dit, mais le manager lion, lui, comment il ferait pour manager? C'est quand même pas pareil. Et le manager renard? Ah, c'est quand même différent. Et l'aigle, on voit l'aigle hein, qui domine tout, en fait. Hein, comment il fait pour manager? Donc, ça m'a amusé. Et j'ai identifié 20 animaux. Et pour chacun de ces animaux, ben, j'ai imaginé des techniques managériales.
Donc, l'abeille, l'aigle, oui, caméléon, oui. Le castor, le chimpanzé, le cobra. Oula, il fait peur, celui-là.
Ah ben oui, le cobra. Ben, il y a des managers comme ça, en fait, hein, qui fascinent et puis qui foncent. Ouais. Ils foncent sur la proie, en fait. Hein. Il y en a comme ça, un peu pervers sur les bords, hein, dans l'entreprise.
Alors, le colibri, comme on sait que le colibri, avec sa goutte d'eau dans son bec, peut faire beaucoup de choses. Il est quoi, le manager colibri?
Il fait sa part. C'est un des éléments. Et il incite les autres à faire leur part, en fait. Hein. On fait partie d'un collectif dans une entreprise. Et dans le projet d'entreprise, la standardiste, elle a son rôle à jouer. Le chauffeur livreur, il a son rôle à jouer. On est tous des colibris, en fait, hein, dans l'entreprise.
Le crocodile?
On le voit bien, sûr, le crocodile.
Oui. Il n'est pas gentil?
Ah, il est féroce, hein, ouais. Le crocodile. Il ne pardonne pas, en fait. Hein. Il ne pardonne pas. Et quand il s'accroche. Hein, donc,
Le dauphin, l'écureuil. Ouais. On imagine aussi l'écureuil. L'éléphant, la fourmi, ouais. La girafe. Le hibou, le lion et la lionne, pourquoi les avoir différenciés?
Et oui, parce qu'en fait, celui qui bosse, c'est la lionne, en fait. Hein. Ouais. Le lion, lui, fait le beau, hein. Il parade un petit peu. Hein. Voilà, avec sa crinière flamboyante, en fait. Hein. La lionne, elle n'a pas de crinière, en fait, hein, mais elle bosse. Hein. C'est elle qui va chercher à manger pour les enfants, en fait. Hein. Donc, c'est très intéressant d'analyser et de réfléchir. Je n'avais pas réfléchi avant, en fait. Hein.
Mais c'est vrai,
mais quand
oui.
On commence à creuser un petit peu, on voit des analogies. Et ce qui se passe dans l'entreprise, dans la famille, dans les organisations, dans les associations, on retrouve des gens comme ça, en fait.
Et est-ce que les forces, je pense à Lyon, par exemple, sa force peut être aussi à un moment une faiblesse? C'est-à-dire que le fait, la Lyon, qu'est-ce qu'elle a comme particularité, la manager ou le manager Lyon? Elle est là à être présente pour ses petits, à leur amener de la matière. Et en même temps, est-ce qu'elle n'est pas des fois trop maternante, justement?
Peut-être, elle peut être un peu castratrice, peut-être en fait, hein, mais de toute façon, chaque manager a des forces et non pas des faiblesses et des caractéristiques moins nobles en fait, hein, moins présentes. Là, c'est pareil. Du reste, on n'est jamais identifié à un seul animal.
Bien sûr.
On a une pluralité d'animaux et ce qui est intéressant.
Le loup, l'ours, le renard et le rhinocéros. J'ai le livre depuis ce matin, donc je vais le découvrir avec amusement. Est-ce que...
Alors, il y a un test dans ce livre, en
oui,
fait.
Oui, voilà.
Il y a un test avec un QR code. Voilà, il y a un QR code, on scanne le QR code et on peut faire le test. Donc, c'est très amusant.
Et ça nous amène là où on serait plutôt, le test?
Il y a trois managers qui apparaissent, trois animaux qui apparaissent.
Ouais.
Voilà. Et puis, alors, ça permet de mieux se connaître soi-même. Mais ça permet de mieux décoder le comportement des autres, des collègues.
Notamment. C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que vous-même vous êtes reconnu dans un des 20?
Oui, bien sûr, bien sûr.
On ne vous demandera pas, c'est quelque chose d'intime. Et notre ami Trump, par exemple, en ce moment, parce que Trump, avant d'être président des États-Unis, c'était aussi d'abord un manager et qui s'entoure beaucoup du monde de l'entreprise, un monde qui peut faire peur aussi en ce
c'est
moment.
Hein. C'est plus le rhinocéros, lui.
Oui, c'est ça.
Le rhinocéros, il y va, il fonce, en fait. Il ne réfléchit pas, il fonce.
Et un mec comme Musk, par exemple?
Ah, lui, c'est plus... Là, ça demande une belle réflexion, en fait. Hein.
On va faire un jeu. On va créer un jeu de société, vous savez.
Oui, c'est possible, bien sûr.
À essayer de se reconnaître aussi dans chaque profil. Est-ce qu'il y a des... Vous avez forcément rencontré des fois des gens, des managers mauvais, enfin, si on peut. Et alors, je vais être un peu perso.
C'est pas le terme, c'est pas
oui,
le terme
voilà,
que j'emploierais.
C'est
pas mauvais. C'est est-ce qu'il est adapté à sa structure ou pas?
Et est-ce qu'un manager peut changer? Parce que moi, j'ai été manageuse 40 ans, mais j'ai l'impression que Avant d'avoir eu des formations et d'avoir été un moment suivi, ou qu'on m'explique les rapports un peu, j'étais beaucoup dans l'instinct, et des fois dans l'instinct, je me plantais, Florian. Le fait d'avoir suivi des formations m'a énormément aidée en me disant « ça, ça se fait pas ». Donc j'étais peut-être, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, abeille au début pour devenir après Lyon. Est-ce qu'on peut se transformer en tant que manager justement,
oui,
pendant
parce
une
que
carrière?
Moi je crois que l'environnement a beaucoup d'influence sur le comportement individuel. Voilà. Donc vous changez d'entreprise, vous changez d'environnement, vous changez de N+1, vous changez de collègue, de secteur d'activité, de produit, etc. Et on n'a pas besoin de la même personne qu'on avait auparavant. C'est ça qui est intéressant. Et tout l'art du recruteur, tout à l'heure on en parlera, tout l'art du recruteur, c'est de voir si les capacités de tel manager sont bien adaptées à la spécificité de l'entreprise, au contexte de l'entreprise en fait, les moyens qui vont être à sa disposition, moyens humains, moyens techniques, moyens financiers. Voilà.
Bien sûr, pour avoir travaillé tout le temps dans le privé, et maintenant d'être dans une association, bon, je ne suis pas salarié, mais je vois bien comment ça fonctionne. Déjà, ça, c'est deux philosophies complètement différentes.
Bien sûr.
Et,
bien
en rentrant, et on peut être amené aussi à faire les deux. Le prochain sujet.
Alors, il y a un sujet qui est terminé, hein, c'est le management selon Jaurès.
Celui-là, on en avait déjà parlé.
On en a déjà parlé, en fait. Hein, et donc, ça y est, il est terminé. On attend la dédicace d'un homme important, un homme politique important de Montpellier, qui nous a promis une dédicace. Donc, on attend la dédicace avant d'aller trouver l'éditeur et de se faire éditer le bouquin. Donc, j'ai interviewé pour ce livre-là un garçon qui s'appelle Thomas Valero, qui est docteur en histoire, qui a fait sa thèse sur Jaurès. Donc, pareil, j'ai interviewé Jaurès le 31 janvier 1914. Le jour même de son assassinat. Et grâce aux réponses de Thomas Valero, j'ai pu faire sortir les techniques managériales ou les techniques de leadership de Jaurès. On n'attend pas Jaurès là, en fait.
Hein, oui, bien
mais
sûr.
En fait,
oui.
Mais en fait, c'était un
manager. C'est un homme de grand charisme.
Voilà, et un leader, en fait. Hein, il a entraîné les troupes, les foules.
Ça me touche parce que mon papa était comédien, je ne vous l'ai jamais dit, Florian, mais il était libraire et comédien, et qu'un de ses rôles qu'il a tourné, c'est à Jaurès. Voilà. Il a tourné au Café du Croissant, là-bas.
Bon, plus, et à Paris, bien sûr.
Paris. Oui. Voilà. Il avait fait un téléfilm où il jouait Jaurès. Je vous montrerai un jour la photo de mon père. Il travaillait le look. Voilà. Il était entre Victor Hugo et Jaurès. Hein. Il aimait bien ça. On va écouter l'hymne à la joie. Et puis, on se retrouve pour parler donc, de tout ce qui va se passer autour du Florian Mentionne Institut en 2025 pour aboutir en 2026. À tout de suite. Et vous êtes toujours sur Radio FM+, dans ce beau mercredi 5 mars ensoleillé. Et j'ai le plaisir d'être en compagnie de Florian Mancione. Florian qui nous a parlé du management selon les animaux, donc aux éditions Athéna à Paris. C'est disponible sur la toile, c'est disponible chez les libraires, c'est
pour la diffusion partout. Hein. Voilà. Y compris sur Amazon.
Vous avez quelques salons prévus, Florian, dans les mois à venir?
À la Comédie du Livre, bientôt.
Oui,
hein.
Bien sûr.
Là, je serai présent.
Stand de Gibert?
Voilà.
Ouais, avec notre amie Stéphanie, ou je ne me rappelle plus comment elle s'appelle.
Delphine Vanet.
Delphine, voilà. En plus, ça m'a amusé parce qu'hier, vous avez fait passer un petit rendez-vous, on peut juste en parler.
Bien sûr.
Avec Barbara.
Barbara Doraté, bien sûr.
Voilà. Hein. Et que je vous quitte à 10h45 pour appeler Barbara pour qu'elle en parle, et qu'elle nous fasse un petit call. Une femme délicieuse, Barbara Doraté. On va parler d'un autre événement, c'est plus qu'un événement, c'est ce qu'on va vivre donc, à partir de maintenant jusqu'en janvier 2026. C'est un concours qui a été créé par qui, Florian, déjà?
Alors, figurez-vous que malgré mon jeune âge, on va fêter les 50 ans du Florian Mancione Institute.
Oui, c'est normal, voilà. Vous avez commencé à 10 ans. Donc.
J'ai commencé tout jeune. Et donc, je l'ai créé en 1976. Et donc, on va fêter les 50 ans du cabinet l'année prochaine. Et mes deux gendres, donc Augustin Valero et Loïc Louyer, ont eu cette idée très intéressante de dire, mais finalement, en y réfléchissant bien, le recrutement est-ce que c'est un art ou une science? Ou est-ce que c'est les deux? Et donc, ils ont voulu faire, on a voulu faire un concours artistique pour valoriser le recrutement. Et on a demandé déjà à différents artistes, soit des professionnels, soit des amateurs, de faire figurer le recrutement en tant qu'œuvre artistique. Soit par une peinture, soit par un dessin, soit par un texte littéraire, soit par une poésie, soit par une photo, un élément artistique. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est que l'on va retenir 50 œuvres d'art entre guillemets, pour pouvoir faire un livre de prestige pour l'année prochaine et l'offrir pour les 50 ans du cabinet.
Voilà. Ça va être un beau... Ça sera offert au vœu de janvier 2026
On
espère
avant
ça un peu 2026.
Ah non, après les vœux de janvier 2026.
Cette façon que vous avez de... Enfin, je pense par exemple, je fais un clin d'œil à Chantal Claire, par exemple, hein, qui a été élue, que j'avais retrouvée. Chantal est une amie il y a 30 ans et je l'ai retrouvée grâce à vous, Florian, parce qu'elle avait gagné le troisième prix ou deuxième prix du concours de la nouvelle sicilienne.
Oui.
J'avais reçu les trois gagnantes. Il y avait Pascal Battistelli, qui est une amie commune, oui. Chantal, que j'ai retrouvée à ce moment-là. Et puis, vous vous en rappellerez, moi je ne me rappelle plus de son nom, de l'italienne. C'était une Italienne qui avait gagné le premier prix
exact.
De la Nouvelle Sicilienne. C'est quelque chose que vous aimez, ça, lancer, parce que c'est en... Enfin, franchement, c'est tout en bienveillance et en gentillesse.
Oui,
c'est
bien sûr.
Pas non plus, voilà,
bien sûr.
Et de révéler des beaux textes, parce que les trois textes étaient très
bien. Moi, j'aime bien la compétition. Mmh. Voilà, j'aime bien la compétition, j'aime bien la reconnaissance, j'aime bien la récompense. C'est moteur, en fait.
Hein, je sais, parce que l'année dernière, quand on avait fait le Salon du Livre avec notre amie Francine Boué, vous étiez venu en disant, Nathalie, est-ce qu'on pourrait pas, là, créer un petit concours de la jaquette, de la plus belle couverture? On avait fait ça.
Exactement.
Et la personne avait été extrêmement touchée d'avoir eu cette reconnaissance, une belle couverture. Vous aimez ça, c'est une émulation, je trouve.
C'est un regard décalé.
Sympa, quoi.
Oui, un regard décalé.
Ouais.
Et avec Francine Boué, de nouveau cette année, on va le faire ensemble, je crois. Hein. On va le faire ensemble sur un concours sur la meilleure couverture et le meilleur titre des livres proposés. Hein.
De toute façon, Francine et Bernard Jacquin viendront nous en parler, puisque c'est au mois de juin, je crois, de mémoire. Donc, l'idée, donc, c'est l'art du recrutement.
Voilà.
En allant sur le site de Florian Mancione Institute, vous avez déjà le logo des 50 ans et vous avez bien sûr le règlement. Donc, comme vous le disiez, les participants peuvent soumettre des peintures, illustrations, photographies, infographies, vidéos. Donc, oui, il y a même des vidéos.
Oui, on peut tout imaginer, en fait. Hein.
Les textes, alors les textes, poèmes, nouvelles, essais, des sculptures à présenter sous forme de photos, de vidéos, des performances.
Mmh.
Et puis toute autre forme d'art, c'est quelque chose qui vous a toujours plu, l'art?
Oui, il y a quelques années, j'avais créé même Art Entreprise, une association Art Entreprise, dont le but était de faire rentrer les œuvres d'art dans les entreprises, en organisant des expos dans l'entreprise, avec des entretiens, des échanges avec les artistes. Donc faire venir un artiste dans l'entreprise, discuter avec les salariés, ça c'est intéressant.
C'est vrai que...
J'aime bien relier les choses,
oui,
les
oui,
gens,
c'est...
entre eux. C'est très amusant en fait.
Mais au Cercle Cambacérès, j'ai souvent rencontré des artistes. D'ailleurs, mm-hmm. je pense Genovese Rossella,
oui,
qui a une très belle galerie.
Bien sûr, Jean-François Ramirez.
Voilà, voilà Jean-François qui nous avait fait le gentillesse. Alors Jean-François, je le retrouve au Salon du Livre de Claret, lui, de temps en temps.
Oui.
Donc chaque candidature, donc c'est à envoyer bien sûr avant le 30 juin, donc voilà,
oui.
hein, ne pas trop tarder si on veut élaborer son projet à la direction @florianmentionne.com. Et donc chaque candidature, c'est une petite présentation de l'artiste, une description de l'œuvre et bien sûr les fichiers de l'œuvre, tout ça est gratuit, je pense.
Bien sûr, bien
voilà.
sûr. Et il y aura de belles récompenses.
Et il y aura de belles récompenses.
Oui. Pour les participants, allez-y. Pour les participants d'une part, et puis pour les meilleurs d'autre part.
Oui, parce que vous enfin pour
on va retenir 50, mais il peut y avoir 100 participants, et ceux qui n'ont pas été retenus seront quand même récompensés.
On peut imaginer des expos aussi, par exemple.
Oui,
après.
bien sûr.
Voilà, c'était la porte ouverte à plein de choses, hein, chouette derrière.
Mm-hmm.
Vous avez trouvé des partenaires pour mener le projet, parce que bon, pour un éditeur, par exemple, vous savez déjà un petit peu ce que vous voulez faire.
On a quelques pistes intéressantes.
Ouais. Ouais. Les œuvres, donc, c'est avant le 30 juin.
Oui.
Et il y aura 50 projets
oui.
qui seront dévoilés le 26 janvier 2026. Donc, vous avez parlé de ce beau livre. Et il y aura une soirée anniversaire. Aujourd'hui, on sent déjà à l'Institut une synergie vers ça.
Oui, il y a des choses intéressantes, en fait. Hein, notamment dans les peintures, ou dans les dessins, ou dans les poèmes. Hein. J'ai déjà lu de très beaux poèmes sur le recrutement est un art, bien sûr.
Comment...
Ce qui est bien, c'est avoir des visions de personnes qui ne sont pas forcément dans le milieu de l'entreprise.
Eh bien sûr.
Hein, et c'est leur perception qui est intéressante, c'est leur ressenti qui est intéressant.
J'avais rencontré une artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Dizabo, ça vous parle?
Oui, Dizabo, bien sûr.
Voilà. Un cercle, et elle m'avait parlé de l'art d'une façon formidable, mais alors des fois... Elle est aussi dans la représentation, justement, dans l'art. Je la vois bien. Il y en a d'autres que j'imagine moins. C'est pas facile, quand même, de faire le pont entre l'art et le management.
Il y a des images ouais. qui sortent, en fait. Hein. Moi, si je devais participer, pour moi, le recrutement, ce sont deux mains qui se tiennent, en fait. Hein. C'est le rapprochement d'un candidat d'une entreprise. Donc, pour moi, ce qui symbolise le rapprochement, c'est la poignée de main. Voilà. Moi, si j'étais un artiste, je ferai une belle poignée de main, stylisée.
La rencontre est importante.
La rencontre, c'est ça qui est intéressant. La rencontre, la réunion, en fait.
Au moment où il y a un candidat qui arrive dans votre bureau, la façon dont il dégage, tout ça...
Il y a le regard, il y a l'écoute. Donc on peut imaginer des œuvres d'art autour du regard, autour de l'écoute.
Le recrutement...
Pas le toucher, parce que malheureusement, le toucher, aujourd'hui, non.
C'est plus compliqué.
On ne touche pas. Même sur l'épaule. C'est incroyable,
faut
en
éviter,
fait.
Ouais,
hein.
Ouais,
même
ouais,
sur l'épaule.
Ouais, ouais. Le changement, ces 50 ans, ce concours, il symbolise aussi ces 50 ans de rapports différents dans l'entreprise. Je veux dire, justement, ce que vous disiez, il y avait des choses qui étaient admises, qui ne sont plus admises. C'est un peu le propos de Bétarame en ce moment. Il y avait des choses qui étaient admises, qui ne sont plus admises aujourd'hui. Il y avait des comportements dans l'entreprise qui ne sont pas, qui ne sont plus admises. Et tant mieux.
Mm-hmm.
Vous-même, si vous êtes encore un peu, si vous êtes maintenant un peu en dehors du quotidien, vous avez forcément un regard sur cette évolution en 50 ans.
Moi, je vois davantage d'exigences de la part des candidats. Les candidats ne veulent plus du tout être considérés comme des pions. Ce sont des entités à part entière dans l'entreprise. Hein. Dans le projet d'entreprise, ils sont vraiment partie prenante beaucoup plus qu'auparavant.
Mmh.
Et il faut qu'on les écoute, il faut que les suggestions viennent d'eux-mêmes.
Mmh.
Et puis, ils ont des exigences. Exigences en termes d'horaire, de rémunération, de moyens. Et c'est tant mieux. Hein,
on en parle beaucoup de ça, ces trentenaires et moins qui arrivent justement avec tout à fait une autre vision de l'entreprise. Enfin, moi, je suis rentrée dans le monde de l'entreprise, ça ne m'a pas gêné d'y rester 40 ans dans la même boîte. C'était même chouette.
Oui, il n'y a pas de comparaison, d'élément de référence.
Aujourd'hui, cette liberté qu'ils veulent avoir aussi de pouvoir rentrer dans une entreprise qui leur plaît, mais de ne pas avoir forcément envie d'en faire carrière, tout ça, ça vous intéresse encore maintenant ou, c'est...
Je crois que c'est la manière de travailler qui est très importante. Oui. Des notions de télétravail, par exemple, de confort matériel, d'aide, de discussion, de bienveillance. Heureusement que ça a bien émergé. Mmh. Nous, ça fait depuis des années qu'on
prend ça. Bien sûr que vous prenez ça. Ouais,
qu'on prend ça, bien sûr. Bien sûr.
Et les chefs d'entreprise avec qui vous échangez sont assez éloignés, justement, de cette vision, des fois un peu primaire, qu'on peut entendre. Ah, les jeunes, ils veulent plus rien foutre, ou les jeunes, ils sont plus ceci, ou les jeunes, ils sont plus cela. Est-ce qu'il y a quand même pas mal de chefs d'entreprise qui ont su prendre le tournant de ça?
Oui, bien sûr. Mmh. Hein. Et puis, il y a des associations qui œuvrent dans ce sens-là. Je prends le CJD, le Centre des Jeunes Dirigeants. Bon, ce sont des chefs d'entreprise qui sont très, très ouverts, en fait. Et qui mettent l'homme au centre de l'entreprise, hein, bien avant le produit, bien avant le côté financier de l'entreprise. Voilà, et ils font passer leur message.
Vous savez que grâce à vous, quand même, on a une émission sur l'entreprise à Radio FM+.
Ah, bien.
Une fois par mois, et je pense que vous connaissez bien celui qui l'anime, c'est Dorian Solé.
Ah oui.
Dorian a une mensuelle. Il a une voilà comme ce matin, c'est lui qui anime et je crois qu'il le fait lundi d'ailleurs. Et donc il nous amène à l'entreprise parce que c'est vrai que dans les radios associatives, le monde de l'entreprise est des fois vu pas comme le grand méchant diable, mais enfin bon, voilà. Or moi j'ai rencontré des chefs d'entreprise vraiment formidables qui sont venus témoigner et s'engager au quotidien dans les radios. C'est vraiment hyper important.
Ce qui est intéressant, c'est de faire le parallèle entre l'entreprise qui est une organisation et les autres organisations, que sont les clubs sportifs, que sont les associations, que ce soit même des communes avec des fonctionnaires à l'intérieur. Tout groupe, que ce soit une famille, que ce soit un groupe d'amis, c'est l'acte de décision qui est très important dans la vie et comment faire quelque chose à quelqu'un. Mmh. Comment faire quelque chose à quelqu'un. C'est le plus difficile, mais c'est le plus exaltant. Moi, ça me fascine. Voilà. Comment on arrive à obtenir ce que l'on veut obtenir. Et si les hommes politiques grappillaient quelques conseils dans mes livres, ça serait drôlement bien, en fait. Hein, parce que plutôt que de l'imposer à la Trump, plutôt que de ne rien faire comme certains politiques français, il y a peut-être un moyen terme à trouver sur comment faire les choses aux gens. Ce n'est pas de la manipulation. C'est de l'intelligence relationnelle.
L'art et l'entreprise... C'est une histoire sans fin. C'est parce que bon, les plus grands mécènes étaient quand même des chefs d'entreprise. Et nos plus grands mécènes en France sont des chefs d'entreprise. Que ce soit Bernard Arnault ou l'autre, comment il s'appelle, Pinault.
Et Pinault.
Hein? Voilà. Est-ce qu'aussi, dans les plus petites entreprises, il peut y avoir cette démarche-là? Est-ce que vous connaissez des entreprises moyennes, je sais pas, des TPE de moins de 50 entreprises, enfin TPE c'est moins de 10 je crois d'ailleurs, je sais plus, ouais. Mais est-ce que dans les petites entreprises, vous pouvez comme ça trouver des chefs d'entreprise qui ont à un moment une rencontre avec un artiste et qui l'aident? Le processus de mécénat est très difficile en France, hein, très compliqué.
Si le chef d'entreprise est à l'écoute de ses collaborateurs, si son assistante, plutôt que d'avoir à travailler dans un environnement avec des murs blancs, accrochait quelque chose, c'est le début de l'art, en fait. Mm-hmm. Hein, c'est le début de la démarche artistique. Mm-hmm. Tout est intéressant. Dans votre studio, il y a des choses intéressantes sur les murs. Mm-hmm. Ça révèle un côté artistique. Et je crois que ça se généralise. Il faut que le chef d'entreprise soit à l'écoute et apprécie les initiatives de chacun.
Parce que ça va revenir...
Parce que l'art ne doit pas s'imposer, en fait.
Oui, bien sûr.
Il doit émerger de la part de tout le monde. Et chacun, dans sa manière d'organiser, d'agencer son bureau, devrait avoir une démarche artistique.
Ça va être un sujet, Florian, et un sujet même intéressant, avec toute une réflexion dessus, parce que et vraiment, votre retour d'expert, il est important là-dessus. Parce qu'on va quand même vers des moments où... on est les rois des subventions en France, quand même, hein, sur l'art. Hein.
Oui.
Voilà. En région Touraine, là-bas, elle a arrêté. Notre président de région, de département, Kléber Mesquida, a fait des coupes sérieuses dans l'aide à l'art. Donc, les artistes vont devoir chercher de nouvelles ressources et peut-être aussi auprès du monde de l'entreprise.
Sûrement, sûrement. Mais l'art ne coûte pas forcément cher,
non.
En fait. Hein. Il y a quand même des choses intéressantes à créer, avec un bon rapport qualité-prix, mmh. Si j'ose dire, hein, si je peux me permettre cette expression-là. Donc, ce n'est pas forcément dispendieux. Hein. L'art n'est pas forcément dispendieux.
Mais vous pensez que les chefs d'entreprise en France auront cette même dynamique que les anglo-saxons, par exemple?
Ah, je crois, de plus en plus. Hein. De plus en plus, l'art rentre dans l'entreprise. Et c'est très bien.
Eh bien voilà la fin de l'entretien, Florian, c'était passionnant. Donc je vous rappelle que Florian Mentionne est venu nous parler du management selon les animaux, disponible aux éditions Athéna. Et puis en deuxième temps, je vous conseille d'aller sur le site du Florian Mentione Institute pour voir tout ce qui est possible de faire pour fêter ses 50 ans autour de l'art du recrutement. Merci beaucoup Florian Mentione.
Merci Nathalie.
À bientôt. Au revoir.